Un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un
signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Lafond. Bonjour Emmanuel Lafond.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Emmanuel Lafond, vous êtes comédienne, actrice et metteuse en scène. Je crois, Emmanuel Lafond, vous aimez particulièrement le mot de actrice, actrice de théâtre.
Oui, vous avez dit actrice et comédienne.
Ouais.
C'est vrai que, oui, j'emploie plus le mot actrice. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le son que ça fait. J'aime bien cutter-eux.
Cutter-eux,
c'est rare, oui, en français, 3 consonnes qui se suivent. Actrice. Et puis non, parce que dans actrice, il y a agir, que j'aime bien, que je me définis pas mal comme ça. Je suis comme ça, comme actrice. Je suis vraiment quelqu'un qui... Ouais, je suis quelqu'un qui agit. Un acteur agit. Il est normalement en train de faire des trucs.
Ouais. Emmanuel Lafond, je vous ai vu jouer au Théâtre de la Bastille.
Oui.
Juste avant le reconfinement, dans une pièce qui s'intitule Parlement, mise en scène par Joris Lacoste. Mmh. Et vous m'avez époustouflée de virtuosité. Et c'est pour ça que je vous ai invité, parce que vraiment, je vous ai vu pendant quoi, 1h30, enchaîner comme ça des paroles différentes. Voilà, je vous ai trouvé virtuose.
Oui, oui, merci, merci. Je suis bien contente. virtuose, oui. Bah, disons que c'est impressionnant parce qu'en effet, ça dure un petit peu moins. C'est 1h10 peut-être.
Ouais.
Et en effet, je parle. À la place de, au nom de, non, c'est pas les bons mots, je me fais traverser par une centaine de voix.
De paroles.
Voilà.
De paroles différentes.
De paroles différentes, ouais.
Que vous restituez.
Oui, voilà. De paroles qui toutes ont été prononcées un jour, qui ont été enregistrées, que j'ai écoutées, et que je restitue suivant des jeux de montage variés et divers, voilà. En votre présence.
Oui, en notre présence. On y reviendra. Normalement, Emmanuel Lafond, vous deviez jouer tout le mois de novembre.
Oui.
Vous aviez des représentations qui étaient prévues tous les jours du mois de novembre.
Oui, sur plusieurs spectacles.
Ouais.
Ouais.
Comment vous vivez cette période ?
Oh ! Comme vous y allez. Bah, on va pas... Ah ben c'est absolument horrible, hein. Là, il y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui se définit comme agissant, ne rien faire et voir que tout est annulé pendant un mois où exceptionnellement on devait agir tous les soirs, c'est un petit peu dur à avaler.
Bon, vous tenez le coup.
Voilà. Oui, oui, oui. Puis il y a les copains, si vous voulez. Quand on est acteur comme moi, quand on fait du théâtre, il y a plusieurs étapes. Parfois, on prépare des spectacles. Parfois, on les répète. Parfois, on cherche de l'argent pour faire des spectacles. Parfois, on les joue. Il se trouve que moi, je faisais que jouer. Donc, voilà. Bon. Je suis là. C'est bien.
Oui, c'est bien d'être là. Alors, Emmanuel Lafond, vous avez choisi comme journée particulière le 6 octobre 1997. Ce jour-là, vous avez vu pour la première fois une partition du compositeur Georges Apergis.
Comme ça ? Faut pas vous appeler comme ça, va lui demander, toi. C'en est un, faut pas vous appeler comme ça, va lui demander, toi. Et puis, je m'excuse, c'en est un, faut pas vous appeler comme ça, va lui demander, toi. Et puis, Graham, je veux que, je m'excuse, c'en est un, faut pas vous appeler comme ça, va lui demander, toi. Et puis, Graham, par Graham. Je veux que, je m'excuse, c'en est un, faut pas vous appeler comme ça, va lui demander, toi. Et puis, gramme par gramme, rien qu'à moi, nuit dernière.
C'était la récitation numéro 11, donc de Georges Apergis. En quelques mots, Georges Apergis, c'est Karine Viard qui chantait. C'est un compositeur du XXe siècle, qui était copain avec Xenakis, et qui, comme ça, a essayé de travailler sur la musique des mots.
C'est ça. qui est toujours vivant, qui écrit toujours de la musique. Et c'est Martine Viard qu'on entend et pas Karine Viard. Et oui, bah écoutez, ce qui est fabuleux, alors là, il écrit maintenant plus de la musique, je veux dire, il écrit moins avec les acteurs. Ce qui est fabuleux ce jour-là, c'est que ce que je découvre sur le piano de la salle tout en haut au Conservatoire d'art dramatique de Paris.
Vous étiez toute jeune donc.
Oui, c'est ça. Bah, je faisais mes études au Conservatoire de Paris. Et puis, il y avait les cours de chant et je détestais chanter. Et je détestais ma voix, et c'était la croix et la bannière pour aller au cours de chant. Et là, tout d'un coup, j'arrive au cours de Vincent Leterme, pianiste, beaucoup, qui a beaucoup joué avec Georges Apergis. Et sur son piano, je vois un dessin. Je vois une grande feuille, c'était beaucoup plus grand qu'un 4, avec un dessin de pyramide. Je m'approche un peu, c'est noir et blanc, et je vois qui a des espèces de notes de musique et qui a des mots. Et je vois qu'il y a un principe à ce dessin, c'est que ça fait un peu, vous savez, l'effet papillon, là, ce qu'on fait quand
symétrique.
On est petit. Oui, voilà, la symétrie, voilà. Donc, comme on l'a entendu là, je sais pas si vous avez, bon, on comprend que c'est combinatoire, quoi. Ouais. Et puis, il y a des petits patterns comme ça. Enfin, il y a des petites cellules qu'on entend au début qui se reprennent et puis, on y agrège d'autres cellules, etc. Ben voilà, ben lui, il a écrit et pensé ça sous forme de dessin. Et là, un monde s'est ouvert à moi.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, vous ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Pourquoi ça a été si important de voir cette partition où, en fait, il n'y a pas de notes, le rythme est noté, c'est le rythme et des mots. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, parce que je crois qu'en résumé, je l'ai pas forcément bien, j'en ai pas vraiment été très consciente peut-être tout de suite. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de manières de, d'ouvrir les portes de ce que c'est que de jouer pour un acteur. Et que le mot jouer, d'ailleurs, il a très justement tous les sens qu'il peut avoir. C'est très ludique de voir un texte. Moi, par exemple, je viens du texte, ouais. de l'improvisation aussi. Mais j'ai été, je lis un texte et je suis censée le dire à voix haute et l'incarner, en faire quelque chose, faire histoire. Bon, et puis là, je vois que cette incarnation, eh ben, elle peut se penser, elle peut se préparer, elle peut se rêver aussi en la dessinant. Elle peut s'entendre aussi. Elle peut. Et puis, à vrai dire, je me suis sentie un peu moins seule parce que moi-même, pour apprendre mes textes et pour imaginer comment est-ce que j'avais à jouer et tout, je me faisais plein de dessins.
Dans la tête?
Ouais. J'avais plein de moyens mnémotechniques qui m'étaient complètement personnels, complètement secrets. Et je m'aperçois que c'est des outils pour des grands compositeurs du XXe siècle pour écrire des trucs pour des chanteuses absolument sublimes, voilà. Et en plus, bon, après, ce qui est frappant aussi, c'est que vous avez vu, on entend vraiment une voix de chanteuse lyrique,
ouais.
Et puis on entend des mots de tous les jours, des choses extrêmement ordinaires et banales. Et ça met en jeu exactement l'ordinaire et le extraordinaire en un seul moment, en un seul espace, exactement comme dans Parlement que vous avez vu.
Oui, oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, Emmanuel Lafont, c'est que vous entendez de la musique quand vous entendez des mots, ou vous entendez la musique des mots.
Oui, bah disons que les mots, ça fait du bruit.
Ouais.
Je pourrais vous parler en vous écrivant, je pourrais vous parler en langue des signes, je pourrais vous parler en... Si je vous parle avec des mots, ça fait du bruit. Donc la première chose, notre cerveau, je crois, est fait pour décrypter le sens de ce que je vous dis par le mot que je vous envoie. Mais il se trouve que le véhicule, c'est du son. Et que les rapports entre son et musique, c'est ce que j'essayais de vous dire par rapport à Pergis et l'encyclopédie de la parole. Le son, la parole, le son, la musique, il y a là des ponts qui se font qui sont quand même pas si éloigné, pas si difficile à franchir.
Et surtout quand on vous écoute parler, Emmanuel Lafont, parce que je trouve que vous chantez quand vous parlez.
Ah.
Non mais c'est vrai, depuis le début j'ai l'impression que vous chantez. Je me trompe ?
Ah, moi je chante pas, je ne suis pas chanteuse, par contre j'utilise beaucoup ma voix,
oui,
et depuis ça va beaucoup, depuis la découverte de cette partition sur ce piano au dernier étage du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, ça va beaucoup mieux avec ma voix.
D'accord, je comprends. Alors il y a une autre voix que vous aimez, Emmanuel Lafont, et que vous écoutiez en boucle en 1997, c'est celle-là. la voix de Björk, Emmanuel Lafont, c'est une voix quoi, qui vous dit quoi ? Vous dansez en l'écoutant.
Bah, c'est une voix unique. Je ne m'en lasse pas. La première surprise en écoutant cette voix, c'est vraiment le fait, je crois, la découverte d'un timbre. De jamais avoir entendu un timbre, une nature de voix comme ça. Et ça me fait toujours le même effet. J'adore la retrouver.
Alors, le 6 octobre 1997, c'est votre journée particulière, Emmanuel Lafont. Ce jour-là, alors que vous étiez élève au conservatoire d'art dramatique, vous découvriez que vous n'étiez pas la seule à entendre la musique que font les mots. Et puis, par la suite, il y aura encore, vous aurez d'autres rencontres avec des professeurs qui vous conforteront dans l'attention que vous portez au son. Mm-hmm. Alors, il y a eu Piccoli, je crois. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il vous disait, Piccoli, sur le son ? Qu'est-ce qu'il vous apprenait ?
Bah déjà, Michel Piccoli, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer avec Klaus Michael Gruber. Et tous les deux portaient une attention particulière au son. Et alors, Piccoli, je me souviens surtout du jour où il me parlait de Coltès, sachant que ça a été un des défricheurs de Coltès, un des premiers à jouer cet auteur. Et il me disait, il parlait de la ponctuation chez Coltès. Et puis je me souviens, on était comme ça, là, on est dans un théâtre aujourd'hui, on était au fond du... On était tout au bout, assis l'un à côté de l'autre du théâtre à l'italienne du conservatoire. Il me disait, tu vois, t'as qu'à fermer les yeux et tu vas voir si ça joue juste. Et il disait ça, il disait qu'on pouvait... Il avait souvent cette position, d'ailleurs, je vois son visage, les yeux fermés comme ça. Bon, il avait les cheveux blancs et tout. Voilà, et il fermait les yeux comme ça, il écoutait. Alors ça m'a beaucoup ça m'a marqué, c'est toujours pareil, j'ai pas vraiment pris conscience de l'importance de ce qu'il me disait et après j'ai compris. Et vous écoutez n'importe quel acteur parler de son travail, à peu près tous vous diront à un moment donné que ce qu'ils font c'est du son, c'est de la musique.
Ouais. Alors il y a eu aussi, vous en parliez, Klaus Michael Gruber, qui lui, ça m'a fascinée quand on a préparé l'émission, qui faisait vraiment teinter une petite cuillère pour vous dire joue comme ça, comme le bruit, le son de la petite cuillère.
Bah pour nous donner une indication de jeu, il y avait une bouteille d'eau en verre, il y avait une petite cuillère et on montait. Les Géants de la Montagne de Pirandello avec la moitié de ma promo. Et puis, plusieurs d'entre nous avaient affaire à un petit groupe de comédiens comme ça qui arrivent dans la maison d'un magicien que jouait Piccoli. Et il leur disait, voilà, la manière dont vous devez arriver, c'est ça. Il leur a fait un son, un bruit, un bruitage. Vous voyez, quand je parle de son, bruit, bruitage, parole, musique, les ponts sont vraiment, enfin je veux dire, les frontières sont vraiment très ténues. Et lui, au lieu... avec des mots, de leur faire toute une théorie sur le jeu ou un discours de metteur en scène ou quoi. Elle leur a dit, voilà, c'est ça.
Et il faudra jouer comme ça.
Et vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes acteur, vous en faites ce que vous voulez. Vous filtrez.
Alors, je vous propose, Emmanuel Lafont, d'écouter Jeanne Moreau. Jeanne Moreau qui raconte son expérience avec Klaus Michael Gruber quand elle répétait La Servante Zerlin.
Klaus n'a jamais indiqué un geste, ni un mouvement, et il m'a livré dans un total dénuement. Ça a été d'une telle douleur qu'au bout de 8 jours, je lui ai dit « j'abandonne, je ne peux pas ». Et j'entrais en scène, c'était dans une petite salle au-dessus du théâtre Mogador, et dès les premiers mots, il disait « stop ». Sans explication. Je repartais derrière la porte imaginaire. Je recommençais. Stop ! Comme ça, mais j'en pouvais plus. Puis tout d'un coup, il se levait. Et il partait. Et après, quand nous sommes arrivés au théâtre des Bouffes du Nord, il était question de tout sauf du spectacle. C'est-à-dire, grâce à lui, j'ai découvert Hölderlin. Je me suis plongée davantage dans Goethe, et c'est à travers ça qu'il m'a amené de plus en plus. Et j'ai compris qu'il m'ôtait tout, la démarche, les mouvements, la modulation de la voix. Il me disait toujours « droit, droit ». Et quand j'ai travaillé avec Ludmilla Mikhaïl, elle m'a dit cette phrase magnifique qu'il lui avait donnée comme indication pour jouer Bérénice, « La parole froide, le cœur brûlant ».
Ça vous fait beaucoup rire, Emmanuel Lafont, d'entendre Jeanne Moreau. Pourquoi ça vous fait tant rire ?
Parce que ça me renvoie aussi à... Bon, nous, on était hyper jeunes quand on a rencontré Gruber. La moitié d'entre nous ne le connaissait pas, parce que tout le monde n'avait Dieu que pour Patrice Chéreau, évidemment, qui était plus connu en France. Et donc, tout le monde se demandait qu'est-ce que c'était que ce monsieur qui parlait pas tant que ça. On pensait qu'il était alcoolique, il buvait plus du tout, pas du tout alcoolique. Et... Non, mais c'est-à-dire que c'était... Il y avait beaucoup de surprises, quoi, ce dont elle parle. Certes, on était plus jeunes, mais il y avait quand même beaucoup de surprises. En effet, par exemple, les répétitions finissaient souvent vachement plus tôt que prévu.
Ah oui. Alors, et il disait rien
Non, mais c'est lui qui demandait ce que les répétitions finissent toujours plus tôt que prévu. Pour laisser un petit peu comme ça les gens en suspens, ou sur leur faim, ou dans la frustration, dans le désir de vouloir reprendre... Je sais pas, c'était comme ça suffisait. Je pense que typiquement... Il avait confiance dans le fait que ça pouvait travailler en dehors des mots et de la pensée, qu'il avait confiance énormément dans la pensée, la compréhension des choses qu'on pouvait avoir. Et pas besoin, il faisait pas de la pédagogie, quoi. Donc il faut laisser du silence, il faut dormir, il faut rêver, il faut lire, faire d'autres choses, et ça travaille. C'est une leçon.
Mais quand il disait parole froide, cœur chaud, vous, ouais. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez la musique que ça fait? Vous comprenez tout de suite?
Ah oui, c'est particulier ça comme indication en effet. Alors je sais que oui, alors c'est Ludmilla Mikhaïl qu'elle cite, qui travaille sur Bérénice. Mm-hmm. Alors quoi faire de Bérénice? Oh, des alexandrins, raciniens, bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une contradiction pure. Là, il vous dit, fais ceci et fais pas ça. Donc, c'est un état de fragilité extrême dont il parle. Un des mots les plus beaux que je sais qu'il a dit à une autre, à Edith Cleaver, notre actrice, soit... Il avait laissé un petit mot dans sa chaussure, il paraît. Soit... Simple et fier, humble et fier, quelque chose comme ça. C'est toujours l'un et l'autre. Et en fait, tout ça pourquoi? Pour jamais être sûr sur ses pieds, on n'est jamais sûr. Toujours être dans la vibration. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui... C'est mon interprétation.
vous parlez de Racine, vous parlez d'alexandrin. C'est une langue qui vous a fasciné pendant longtemps ?
Ouais, j'adorais faire ça. J'ai vachement, vachement travaillé là-dessus. Oh, j'ai vachement travaillé là-dessus. Je trouvais ça dingue parce que c'était tellement contraignant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, c'est 12 pieds à chaque fois. Oh là là, avec cette langue française qui accentuait toujours vers la fin. Bon, oh, est-ce qu'on a le droit ou pas de dire ceci, de dire cela ? Non, je trouvais ça passionnant parce que... Pourquoi ? Parce que ça me mettait en face d'un drôle de truc, qui est le truc quand même des acteurs, où on a des textes et il faut qu'on parle, il faut qu'on les joue.
Ouais.
Et là, on a un texte terriblement écrit, on peut pas faire semblant que c'est pas écrit, on peut pas faire semblant qu'il n'y a pas 12 pieds, on peut pas faire semblant que ça a été écrit au 17e, etc. D'accord ? Mais on est aujourd'hui, je suis en 2020, et là, je vais vous jouer Bérénice.
Ouais.
Je vais vous jouer Agrippine. Il faut bien que je parle, c'est quand même du français. C'est pas le français, par exemple, de Montaigne... Dans l'ancien français, on comprend plus rien du tout. On comprend. Alors, il y a des subjonctifs, il y a des tournures, il y a des inversions, des ordres qui sont un petit peu bizarres et tout, mais on comprend tout très bien. Mais il y a une musique inhérente à la chose, extrêmement répétitive et toujours la même. Et voilà, on va travailler comme acteur au croisement d'une langue parlée et d'une langue écrite. D'une langue écrite hyper codifiée. Et nous, on connaît très bien les codes de la langue parlée aujourd'hui. Et si on en est un peu conscient, on
y
peut
arrive.
Jouer.
Ouais. Est-ce que vous savez que certains ont essayé de faire chanter du Racine ?
Ouh.
Oui, je crois que j'ai entendu ça une fois avec un accordéon, puis aussi en tête Sarah Bernhardt. Mais Sarah Bernhardt, c'est il y a longtemps, des premiers enregistrements.
Alors moi, j'ai en tête autre chose, c'était sur une musique d'Apergis, justement.
Ah.
Chanter Phèdre sur une musique d'Apergis.
Nous avons fait un travail de recherche sur la prosodie, sur le vers, sur l'alexandrin, pendant 4 mois. Et nous avons eu envie d'explorer les différentes manières de dire le texte. Alors, c'est pourquoi la diction, il y a la diction-diction, c'est-à-dire on dit le texte tantôt d'une manière prosaïque, tantôt d'une manière récitée, tantôt d'une manière presque chantée, mais toujours en parlant, et tantôt d'une manière carrément chantée. Et c'est là qu'il a écrit des récitatifs. C'est uniquement pour explorer la parole, ce travail chanté. C'est pas vraiment de la musique, c'est de la parole. C'est de la musique vocale.
Voudrez-vous cacher une triste nouvelle, madame? Mais il faut que je vous la révèle. La mort.
C'était Vitesse hein, qu'on entendait au départ, donc qui a travaillé, okay. Qui a fait ce travail musical sur Phèdre,
ouais.
et voilà ce que ça donnait. Emmanuel Lafont, je vous écoute depuis tout à l'heure, j'écoute votre voix, j'écoute votre façon de parler, les silences que vous mettez, les hésitations, j'écoute votre musique à vous. Je suis très étonnée parce qu'elle ne ressemble évidemment pas à celle que j'ai pu entendre sur scène quand je vous ai vu jouer et que vous disiez 100 paroles différentes. Mais en vous écoutant, je me dis, vous êtes une oreille. J'entends que vous êtes une oreille. Vous êtes une grande oreille. Hein?
Oui.
Et à votre avis, ça vous vient d'où, cette grande oreille que vous êtes?
Ah oui, c'est une grande question parce que tout ça est très, très empirique. Hein. Je suis pas musicienne, je lis pas la musique. Alors, bon, je suis née dans un pays étranger avec des parents français, mais dans un... J'ai entendu 3 langues tout de suite dans ma vie. Peut-être, c'est pour ça. Je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose à favoriser chez les enfants et dans l'éducation nationale aujourd'hui et en France, où nous avons la chance d'avoir tellement de gens qui parlent tellement de langues différentes. Voilà, ça forge des oreilles en effet très... et des esprits très...
Singuliers.
Plutôt... Oui, puis ouverts. J'ai conscience d'être très singulière, mais je suis aussi très ouverte.
Est-ce que vous pouvez me donner une idée, Emmanuel Lafont, de la musique que vous entendez quand vous jouez? Est-ce qu'il y a un texte comme ça que vous pourriez me dire où j'entendrais ce que vous entendez? Ça peut être un extrait de Parlement, de la suite numéro 2 peut-être, de que je vous entende travailler la musique d'autres.
Ah oui! Alors, c'est un extrait de suite numéro 2 qui vient à peu près aux 3/4 du spectacle. Imaginez une grande salle, je suis tout au fond, à jardin, comme on dit, c'est-à-dire à gauche pour vous spectateurs. On vient d'entendre une chanson interprétée par les acteurs-chanteurs sur les contre-indications d'un médicament qui sont donnés en cas de schizophrénie aiguë qui s'appelle Abilify, voilà. J'ai fait un petit peu de caisse claire. Je m'assois derrière, je bois, ça fait 3/4 d'heure que je joue. Il se passe trop rien et ça commence comme ça. Culture, les religions, les nations, les couleurs, ça n'a pas de question. On est là pour vivre. Pour vivre ensemble. Ça! Mettez-vous ça dans la tête, putain de merde! J'en ai marre! On est là pour vivre ensemble, tous ensemble! Et là, 5 secondes se passent dans l'extrait que je restitue, donc je les compte sous forme de crocodile. 2 crocodiles, 3 crocodiles, ça continue. Vous êtes française! Français, le français de 10 générations. Il en a à foutre. 7 secondes se passent. 2 crocodiles, 3 crocodiles, 5 crocodiles, cette crocodile.
Hé hé! C'est dégueulasse! Et de tout temps...
Et là, à chaque fois, il y a deux secondes entre les séquences qui sont dites par le monsieur que je restitue.
Et quoi qu'ils disent, qu'on est en France, c'est pas une révélation. Bien sûr que oui. Mais révélation. En tout cas, je veux pas de nation, moi. Elle est faite de cultures, de différentes nations, entre les blancs, les noirs, les jaunes, les black blanc beurre, comme on disait il y a longtemps, un temps passé et révolu, alors que maintenant, on n'est que les cocus. On aura maintenant David Cocu, même si on est homo, etc.
C'était chacun son cul, un extrait de suite numéro 2.
Et c'est un homme sous dans le métro qui soliloque, c'est ça? Mais c'est pas ça que je veux savoir, en fait, Emmanuel Lafond.
Dites-moi.
C'est que je vous regarde.
Oui.
Moi, j'ai la chance de vous voir.
Ah bah oui.
Et alors, vous dansez. Vous,
oui.
vous scandez le rythme. Et quand vous le faites pas en faisant ça, vous le faites avec votre corps.
Oui.
Et, mais vous dansez.
Mais quand je suis sur scène... et que j'ai le verbe froid et le cœur chaud, tout ce que vous avez vu comme mouvement, je ne les fais pas.
Je sais, j'imagine, mais là, vous avez dansé devant moi.
Oui.
999999. Stay in the line, don't you leave it swine. My name is Kojak. Meet me in the trap with a double attack.
Whoa! The tap.
My name is Kojak. My name is Kojak. With a double attack.
Scratch Perry, pour vous faire plaisir, Emmanuel Lafond.
Merci, merci beaucoup.
C'est exactement votre genre de beauté, quoi. Bricoleur de son, expérimentateur, c'est ça que vous aimez, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et groove, quel groove.
Et vous dansiez encore, et vous dansiez encore et toujours. Jusqu'à 15h, c'est toujours la journée particulière de l'actrice, Emmanuel Lafond. Et je disais donc au début de l'émission que je vous avais vu jouer au Théâtre de la Bastille juste avant le confinement et que j'avais été époustouflée par votre virtuosité dans cette pièce Parlement, donc qui est une pièce, le premier spectacle de l'Encyclopédie de la Parole, et où vous étiez seule en scène avec un pupitre, hein, et vous enchaîniez comme ça dans un long monologue une centaine de paroles. Est-ce que pour qu'on ait une idée de ce que c'est, ce mm-hmm. spectacle. Est-ce que vous pourriez déjà m'en dire un extrait, Emmanuel Lafond?
Ah oui, avec plaisir. Il y avait un pupitre et un micro, donc un ingé son derrière. Là, il n'y aura pas les effets qu'il y a sur le micro, mais c'est pas grave, je vais essayer de le faire sans lui. C'est le début du spectacle que vous avez vu, donc ça commence comme ça. Oui, donc bonjour, merci beaucoup d'être venus si nombreux, c'est impressionnant cette salle, c'est fou. On a toujours évidemment un peu de mal à démarrer devant tant de personnes. Je suis juste de me réveiller. Alors je suis encore dans mon lit et t'es la première personne à qui j'avais envie de parler. Nous sommes jeudi. Peut-être quatre jeudis avant que j'aille te voir. Mais je pense que depuis 2 semaines, j'étais franchement pas bien émotionnellement. Et il a fallu que je me batte un peu avec moi-même, que je me secoue pour trouver l'énergie seul. Nein. It is ein höchstes Stammenden, hein? Komm da, ja, komm da. Komm. Gier. Nein. Ja. Nein. Ja. Ça dure assez longtemps. C'est Joseph Beuys qui enchaîne des non, oui en allemand. Et puis à la fin, ça se finit. Ya, y'en a marre. Oui, papa, oui, chérie. Oui, patron, y'en a marre. Oui, papa, oui, chérie. Oui, patron, y'en a marre. Oui, papa, oui, chérie. Oui, patron, y'en a marre. Oui, papa, oui, chérie. Oui, patron, y'en a marre. Et je repars plus fort. La partie nord est en accord avec le plus hardcore. Stop! Non, ma formule d'abord. Qui l'a? Qui n'a pas? Ça ne se voit pas. Ça se sent, se ressent. De quoi on se souviendra dans 10 ans? Des jeans slim? Du beau gosse d'hier soir? En tout cas, moi, je me souviendrai de l'intense burger de Quick, etc.
Et ça, pendant plus d'une heure.
Ouais.
Et ça, c'est le début du spectacle. Donc, c'est des vous avez travaillé à partir d'enregistrements sonores
ouais.
que vous avez collectés un peu partout en France et dans le monde.
Oui.
Et à partir de ces enregistrements, vous êtes vous entraîné à les restituer tels quels. Ouais. Exemple.
Le petit bidon. On a un petit bidon, un bidon d'huile sur la table, un petit bidon vide, un petit bidon normal, normalement sur la table, avec du vide dedans. Il est fermé, mais il est vide. Si on regarde dans le petit bidon, on a du vide, on n'a rien. On regarde sur la table... Et on voit un petit bidon qui ne déborde pas de la table. Le petit bidon reste bien à sa place. Il ne bouge pas. Il ne déborde pas comme une grande masse blanche qui viendrait par-dessus la table et qui viendrait déborder la table et qui viendrait se mettre dessous la table. Il reste au-dessus de la table. Il est totalement vide. Il ne se passe rien. Qu'un petit bidon sur la table.
Alors ça, c'est un des sons que vous reproduisez
oui.
aussi, Emmanuel Lafond,
oui.
à l'identique. Mais en fait, vous pouvez prendre toutes sortes de paroles, c'est-à-dire chaque parole, chaque type de parole a une place dans ce projet de l'encyclopédie de la parole. Oui. Et on peut aussi entendre ça et que vous restituerez un peu plus tard dans le spectacle.
Moi, c'est Thomas, le copain de Midi. Je suis venu un week-end chez Midi, vendredi, samedi, et vous n'avez pas daigné venir me voir. Ça, c'est vraiment dégueulasse de ta part, parce que t'aurais pu dire ton copain il est en dessous, on va le voir, on va lui parler un petit peu, un minimum. J'ai jamais eu de mal de toi, contrairement à ce que je dis. Je seule seconde me dire bonjour, me saluer quand tu viens le samedi matin, t'es une merde. Tu sais quoi, t'es une grosse merde. Tu vas réciter tes poésies et putain, mais t'es une merde.
Donc voilà, donc Emmanuel Lafont, pour avoir une idée brouillée aussi, mais parce que j'ai voulu absolument passer cet extrait, parce que j'ai un souvenir quand vous le dites dans le spectacle, vous le dites comme ça exactement, vous reproduisez.
Je le dis exactement comme ça, ce qui est rigolo c'est que je le dis exactement après le petit bidon que vous avez fait écouter avant.
Ah ben ça je ne me rappelais pas, non.
Ben, vous avez fait le même montage que ce qu'on fait en troisième partie de Parlement. Quand on commence à écouter le petit bidon, il est coupé par le Nicolas. Bon, c'est Thomas. Ah non, mais en fait, parce que je mets mes mains autour du micro. Oui. Ça, c'est un truc un petit peu saturé, comme ça. Hein, Nicolas ? Bon, c'est Thomas, le copain de Julie, d'Emily. Tu es venu un week-end, parce qu'à un moment donné, on a flouté les prénoms. Mais là, maintenant, on les floute plus. Tu es venu un week-end chez Emily, vendredi, samedi, et vous avez pas daigné venir me voir. Ça, c'est vraiment dégueulasse de ta part, parce que t'aurais pu dire, ton copain est lui en dessous, on va le voir, on va lui parler un petit peu, en minimum. Puis, je n'ai jamais dit de mal de toi, contrairement à ce qu'elle dit. J'ai toujours bien aimé les artistes. Je le suis moi-même un petit peu. Enfin, j'essaie de faire ce que je peux. Mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment pourri, quoi.
Voilà. Bon, la difficulté étant au départ de ne pas faire présager de la violence qui viendra à la fin.
Oui, de t'es qu'une merde. Oui. Et est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ce que vous faites avec le travail que vous faites avec l'encyclopédie de la parole, Emmanuel Lafont ? Parce que tout ça, j'imagine que pour les auditeurs, c'est un peu fou, mais c'est un projet un peu fou aussi, cette encyclopédie de la parole.
Ouais, c'est fou.
C'est quoi ?
Bah, en fait, c'est bête au départ, on fait des rapprochements entre des choses qu'on entend.
D'accord.
On met en rapport des choses qu'on entend. C'est-à-dire, on se dit, tiens, ah, c'est marrant, moi, ma boulangère, par exemple, j'ai mis des plombes à comprendre que ma boulangère, en fait, ce qu'elle me disait tous les jours, c'est avec ceci, et avec ceci, et avec ceci, donc, et avec ceci, n'est-ce pas ? Alors, avec ceci, et alors, ça me fait penser à, par exemple, Gainsbourg, quand il parle à la fin un petit peu là de sa vie, et il a toujours ses parents, si vous voulez, il parle aussi un petit peu comme ça, il faut essayer de le comprendre. Ou alors, certains poètes s'amusent, il y a de la poésie sonore, on s'amuse par exemple à enlever les voyelles. Alors, ça fait des espèces de paroles comme ça. Ou aujourd'hui, la grande mode dans les chansons, c'est de parler par acronyme. Vous savez, même nous, quand on parle, on va à l'E-H-E-S-S, etc. Eh ben, on s'est dit, tiens, c'est marrant, il y a un point commun entre toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on appellerait ça? Ça se réduit, ça se compresse. La compression. On s'est dit, tiens, il y a des choses qui se passent, qui sont pareilles. Quand ma boulangère, elle me dit, avec ceci. Et quand, j'entends, il me parle comme ça. Ou alors, quand je dis, C-L-O-S-E. C-L-O-S-E to you, pour dire close to you, je suis proche de toi. Et ben, on a appelé ça la compression.
Vous avez appelé ça, donc ça veut dire que vous avez écouté toutes ces sons que vous avez collectés, toutes ces paroles que vous avez collectées, ouais. Et vous êtes réunis, travail collectif,
ouais.
Et vous avez dit qu'est-ce que j'entends là? Et vous avez essayé de faire des catégories,
ouais.
Des différentes manières que l'on a de parler.
Oui, c'est ça, en faisant encore une fois en faisant des rapprochements. Tiens, c'est marrant. Quand j'entends un commentateur de course hippique, de tiercé parler,
ouais.
Il parle dans une telle cadence, ça me fait penser à cette chanson de Patti Smith qui est d'une espèce de parler chanté, elle est dans une cadence comme ça. Ou alors, tiens, mais c'est rigolo, il met des temps quand il parle, comme tel prof qui met du temps quand il parle. Tout ça pourquoi ? Parce que ils sont en train de regarder quelque chose en même temps qu'ils parlent, donc ils mettent du temps. Entre chacun des mots qu'ils disent. Je ne sais pas si je suis très claire.
Si, vous êtes très claire parce que j'ai devant moi la liste des catégories donc,
oui.
Que vous avez définies.
Oui.
Alors effectivement, il y a cadence, il y a combinaison, il y a espacement, vous venez d'en parler.
Ouais.
Mais il y a des choses qui me posent plus questions.
Oui.
Par exemple, il y a pli. Qu'est-ce que c'est qu'un pli ?
Qu'est-ce que c'est qu'un pli ? Eh ben, si par exemple, je commence à vous parler de cette salle dans laquelle on est, bon, enfin, en même temps, il ne fait pas non plus très très chaud. Et si je me souviens bien, en arrivant dans cette salle, d'abord on est passé par ici. Parce que cette salle, finalement, dans laquelle on est, c'est une salle qui est plutôt rouge. Oui, parce que c'est une salle de théâtre, n'est-ce pas ?
Oui.
Donc, Zoé, voilà. Là, par exemple, j'ai eu une parole qui a fait
des plis parce que j'ai commencé par une proposition principale et puis j'ai ouvert une parenthèse que j'ai fermée. Puis j'ai ajouté quand même, je suis passée à deux petites marches dans mon escalier pour vous dire que...
Oui, c'est ça, c'est un esprit d'escalier.
Oui, il y a de ça. Il y a de l'esprit d'escalier là-dedans.
Il y a de ça. Alors, il y a autre chose aussi. Il y a pli, ponctuation, projection, résidu. Qu'est-ce que c'est qu'un résidu ?
Résidu.
C'est une des catégories résidus.
Ah oui, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qu'il y a dans la parole qui est résiduelle ? Qui ne serait pas... Il y aurait l'essentiel de ce qui est dit et puis tout ce qui est autour, les donc, les gens qui n'arrêtent pas de dire donc pour ponctuer leur phrase ou même les rires.
Ou les bruits de bouche ?
Les bruits de bouche, oui, exactement. BDB, on appelle ça. Sur nos partitions, on
écrit. Et vous dites partition ?
Ouais, je dis partition.
Ce n'est pas des textes.
En effet. Bah oui, parce que c'est des retranscriptions, en fait.
Et après, vous mariez ces paroles et vous faites une sorte de montage, qui est une sorte de montage poétique. Vous inventez une nouvelle langue.
Oui, c'est ça. Pour les spectacles, ça donne lieu à des montages, c'est ça. Ouais, ouais.
Et alors, au début, si c'est notre univers sonore qu'on entend, à la fin du spectacle, ça devient très étrange.
Oui, bah, c'est-à-dire que quelque chose se passe dans le temps du spectacle avec vous. Notamment, des choses sont reprises que vous avez déjà écoutées. Et il y a des modes de montage qui diffèrent, quoi. À la fin, les choses s'accélèrent.
Ouais.
Et puis à la fin, je dis un mot qui vient de moi, je dis merci à la toute fin.
C'est joli. Ben, on va continuer, alors on va continuer à parler ensemble. C'est moi qui vous remercie en tout cas d'être là.
Sur France Inter.
Bon, Emmanuel Lafont, c'était pour vous cette playlist d'Allégresse, oui, du créole, du blues créole.
Ouais, merci, ça fait du bien, ça fait du bien.
Vous aimez ça, hein, le créole, à cause de votre enfance,
oui,
à Lagos.
Ah ouais, j'adore le créole, tout ce qui est langue mélangée, j'aime beaucoup. Je comprenais quelques mots là, c'était très agréable cette alternance de ce que je comprenais, de ce que je comprenais pas, de ce que je déduisais, mais j'ai quand même compris qu'il fallait regarder de l'avant. Et ça, c'est le genre de truc qui fait plaisir à entendre en ce moment.
Oh, c'est ça, on va aller de l'avant. Alors, le 6 octobre 97, c'est votre journée particulière, Emmanuel Lafont. En 97, Elton John rendait hommage avec Candle in the Wind, avec un accent sublime, comme vous le remarquerez, à la princesse de Galles, Lady Di, morte tragiquement dans un accident de voiture à Paris. Mm-hmm. Gesh Patti, elle chantait Loin des têtes couronnées, Etienne, Etienne. Mm. Et Florent Pagny, son grand tube, Savoir aimer.
Savoir sourire à une inconnue.
97.
N'en garder aucune trace.
Ah ouais.
Sinon celle du
plaisir. Ah ouais,
plaisir.
En phase.
Savoir aimer.
Et
sans rien attendre en retour. Pas ni gare, ni grand amour. Pas même l'espoir d'être aimé.
Ah, savoir aimer.
Voilà.
Là, là, là. Bon, mais le clip, vous le connaissez, Emmanuel Lafont?
Non.
Parce que c'est en langue des signes. Et je me disais, ça, c'est pas une langue que vous maîtrisez, la langue des signes?
Ah, j'ai joué un jour quelqu'un qui parlait en langue des signes. Donc j'ai eu une petite, en effet, une petite... Je joue toujours des trucs impossibles.
Oui.
J'ai eu une petite initiation. C'est extraordinaire, la langue des signes. Ah oui, c'est extraordinaire.
En 97, Emmanuel Lafont, le premier secrétaire du Parti communiste français, Georges Marchais,
oui,
disparaissait. Oui. Et je me suis dit, ça c'est une voix et une prosodie unique. Elle est pour vous.
Oui.
J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision. Et quand j'ai entendu François Mitterrand, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris.
Ouais.
Vous faites des imitations? Vous aimez imiter les hommes politiques ou les gens avec qui vous parlez?
D'ailleurs, ce que je fais avec l'encyclopédie de la parole, il y a beaucoup ce mot qui revient, le mot d'imitation. Donc je dois être en effet très forte là-dessus. Moi, je me souviens surtout, je fais pas ça, j'ai pas mon Marchais, j'ai pas mon Chirac, j'ai pas mon Macron, non. Bon, je pourrais peut-être me spécialiser là-dedans. Non. Il faudrait avoir le. Je sais pas le talent de. Non, il faudrait avoir le talent de Le Luron. Je sais pas pour faire ce genre de truc.
En 97, il s'est passé évidemment plein de choses. Je choisis pour vous faire réagir, Emmanuel Lafont, des événements qui pourraient vous intéresser. Oui. C'est le début de la cohabitation. Jospin, Chirac.
Oui.
Et je crois savoir que vous devez jouer un spectacle.
Où je vais jouer Jospin et Chirac.
Les deux?
Mais oui. Jospin et Chirac.
Mais c'est-à-dire, vous allez. Comment ça, vous allez les jouer? Vous allez.
Alors, ça, c'est l'actu. C'est un spectacle, en effet, qui s'appelle Le Grand Débat, qui normalement va se jouer en janvier prochain. On est deux. On est Laurent Poitrenaud.
Oui.
Et moi, Laurent Poitrenaud a mis du son et de la musique aussi. Et moi, c'est dans un spectacle qui est conçu et mis en scène par Émilie Rousset et Louise Aymon, et qui consiste en un grand mix du deuxième tour des débats présidentiels depuis.
Ça veut dire que vous les avez appris ?
Ça veut dire que, alors, on aurait pu les apprendre, on ne les a pas appris. C'est encore un travail un petit peu particulier, on travaille à l'oreillette.
D'accord.
Il y a eu un montage de tous les présidents, enfin les candidats à la présidentielle qui ont débattu au deuxième tour depuis 74, mm-hmm. 19, 14
14, c'est 14, Giscard.
Voilà, depuis... Et donc Louise et Émilie ont fait un montage de tout ça, et d'accord, nous on joue ce montage, Laurent et moi, et on fait ça à l'oreillette, c'est-à-dire qu'on entend, on a dans nos oreilles les voix... le montage de toutes ces voix, et on les restitue, encore une fois, entre nous, voilà, en se parlant. Oui.
En vous parlant. Mm-hmm. Et ça devrait être, croisons les doigts, en janvier.
Oui, ça c'est en janvier, au Théâtre de Gennevilliers, le Grand Débat, j'espère.
Alors pour finir cette émission, Emmanuel Lafont, j'ai voulu entendre une voix de quelqu'un que vous connaissez, dont vous nous avez parlé, mais qui, vous allez voir, résonne étrangement avec ce qui se passe aujourd'hui.
En conclusion, il faudrait bien que tout le monde comprenne que les artistes, les acteurs, n'aiment pas avoir l'air de se plaindre tout le temps, ou de faire la quête. Alors je crois qu'il faut mieux que je m'adresse au ministre des Finances et qu'il considère que les arts et le spectacle sont une nécessité pour les loisirs et la culture du public et qu'il donne au ministre de la Culture les moyens de développer les arts et les spectacles.
Emmanuel Lafond, n'est-ce pas une belle conclusion ?
Ben oui, merci.
Qu'on vous donne les moyens d'exister.
Ah oui, oui, merci. Et puis vive la radio, parce que ça nous permet de ça nous permet de nous entendre, nous.
C'est-à-dire ?
Ben, je veux parler des... Bon, Piccoli nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais enfin, il reste là. Mais... Non, je parle d'eux aussi, de nous qui sommes censés jouer. Mais du coup, on nous invite à la radio pour parler de notre travail. Et je suis pendue à ma radio en ce moment. Et ça me fait un bien fou de sentir la communauté des gens qui font du spectacle vivant être présent, au moins sonorement.
Merci, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation, Emmanuel
Merci
Lafond.
Merci
et donc, on espère vous revoir vite sur scène en janvier,
ouais,
au Théâtre de Gennevilliers. C'était une journée particulière, une émission préparée par Céline Dubois et Hugo Combes, programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard et Clément Nouguier. À la technique aujourd'hui, c'était Marie Le Peintre et Benjamin Perru. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end.